Mais ce matin, j'aimerais vous parler d'un disciple un peu particulier, d'abord parce qu'il ne vivait pas au temps de Jésus, et parce qu'il était un peu prophète sur les bords. Enfin, pas sur les bords, carrément prophète. Un disciple un peu particulier, mais disciple quand même, parce qu'il était appelé par Dieu à être son porte-parole, là, dans son pays, ou dans son monde, dans le monde qu'il vivait, c'est-à-dire dans lequel il vivait, c'est-à-dire le monde de l'Ancien Testament, au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans les années 760, un disciple prophète ou un prophète disciple, comme vous pouvez choisir, un disciple un peu spécial, comme on va le lire plus tard. Pourtant, tout commence relativement bien quand on lit le début de son histoire, le prophète dans le livre qui porte son nom, donc c'est Jonas, coincé entre Abdias et Michée, mais maintenant qu'on a les tablettes, il n'y a plus de souci pour trouver les livres bibliques. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amathai, en ces termes, « Mets-toi en route ». Jusque-là, go. Jusque-là, tout est normal, on ne peut plus le normal. Le livre de Jonas commence comme tous les livres des prophètes, d'une manière tout à fait classique. L'Éternel parle à son prophète, un prophète qui est connu d'ailleurs. Il a déjà fait plusieurs prophéties. On le connaît sous le roi Jéroboam II. Il a prophétisé l'agrandissement du royaume d'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord. Donc c'est un prophète qui n'est pas né de la dernière pluie, et Dieu va utiliser un verbe de mouvement, comme Dieu les aime, pour ses disciples, et il va lui dire « Mets-toi en route, mobilise-toi, bouge-toi un peu, et va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est venu jusqu'à moi. » Et là, on est dans l'habituel du prophète disciple, votre mission, si vous l'acceptez, et de proclamer un jugement contre une ville païenne, immorale, violente, méchante, c'est Ninive, la capitale de l'Empire assyrien. Un jugement contre elle, pour sa repentance, et tout à fait donc dans les fonctions du prophète, il n'y a pas de souci. On est dans le normal du prophète, qui d'ailleurs se met en route. Verset 3, Jonas se mit en route, mais là, surprise, d'aller vers Ninive, il va s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Et là, on est dans l'inattendu, c'est du direct. On n'avait pas prévu ça. Le disciple prophète s'enfuit et il va même dans la direction opposée. Tarsis, c'est 3800 km à l'ouest, c'est dans l'Andalousie, en Espagne, alors que Ninive, c'était 1000 km à l'est. On lui demande de partir en mission, Jonas part en croisière méditerranéenne. L'histoire, Jonas, ou l'histoire du type qui ne voulait pas y aller, ou qui va dans la direction opposée à celle que Dieu lui avait demandé d'aller. Alors pourquoi Jonas ne veut pas y aller? Pourquoi Jonas prend-il la direction opposée? On ne peut pas le savoir parce que pour l'instant, Jonas ne dit rien. Il ne parlera, on est dans le chapitre 1, il ne parlera qu'au verset 9. Et c'est assez frappant de voir comment Jonas s'enferme dans un certain mutisme qui est propre à la fuite. Quand on fuit quelque chose ou quelqu'un, on s'enferme dans le silence, on a les dents serrées, les mâchoires crispées, on ne dit rien ni aux autres, ni à Dieu. On fuit. Pourquoi ne veut-il pas aller à Ninive? Pourquoi fuit-il? Alors c'est vrai que Ninive est la capitale de l'Empire assyrien, les rois sont assyriens comme Sennachérib ou Assurbanipal qui ont laissé un souvenir mitigé, ce sont des ennemis d'Israël, c'est un fait, c'est une ville violente et sanguinaire, je vous passe les détails. C'est une ville païenne, c'est le berceau du zoroastrisme, elle est puissante, elle est violente, elle est païenne, voilà Ninive. Et ce sont peut-être des bonnes raisons pour ne pas y aller, mais est-ce la bonne raison? A-t-il peur pour sa peau? Ou est-il un peu nationaliste? Le Dieu d'Israël pour le peuple d'Israël, la France aux Français. Ou sectaire, ou étroit d'esprit, ou réfractaire, ou obtus? Le récit nous laisse avec ces questions. Pour l'instant, il ne répond pas à ces questions. Pour l'instant, Jonas fuit sans maudire, et peut-être en maudissant. Et sa fuite est un peu exemplaire pour nous, l'exemple parfait de la fuite en avant, tête baissée dans le guidon, sans voir les conséquences, et une fuite exemplaire qui peut servir d'exemple à toutes nos fuites, nos petites ou grandes fuites devant Dieu, par rapport à notre appel, par rapport à nos responsabilités d'hommes et de femmes, ou d'étudiants, ou de lycéens, ou de disciples de Jésus, fuite par rapport à la volonté de Dieu, et clairement exprimée dans la parole, nos fuites. Et peut-être que l'histoire de Jonas est là pour nous dire quelque chose sur nos fuites en tout genre. Et avec Jonas, la première chose que l'on peut dire est que on peut effectivement fuir loin de Dieu, mais qu'on ne peut pas se cacher de lui. Pourtant, Jonas cherche vraiment à s'éloigner de la face de l'Éternel. Dans le verset 3, il y a deux fois ce terme-là. La face de l'Éternel, s'enfuir de la face de l'Éternel. Et il y a beaucoup de naïveté dans cette démarche. Il est prophète, pourtant, il dira plus tard qu'il croit au Dieu créateur de tout. Les forêts lui appartiennent, la mer aussi lui appartient, même l'Andalousie est à lui. Il sait tout, il voit tout. C'est tellement naïf de sa part de croire qu'on peut mettre des kilomètres entre Dieu et soi. Et parfois, nous avons cette naïveté-là, de penser pouvoir fuir Dieu, de penser pouvoir aller dans la direction opposée que celle qu'il nous demande. Ça me fait penser à cette fuite dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève, tous les deux responsables, ont désobéi devant Dieu, ils se cachent dans le jardin. Ils croient pouvoir se cacher de la présence de Dieu qui les a créés et qui les aime plus que tout comme un père. Mais Dieu les trouve, qui se promènent dans le jardin, les trouve tout de suite. On peut s'enfuir, mais on ne peut pas se cacher de Dieu. Et c'est mieux comme ça. Il y a un psaume 139 écrit par David qui dit « Où irai-je loin de ta face ? Si je monte au ciel, c'est de la poésie, hein, on ne peut pas monter au ciel, mais si je monte au ciel, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, tu y es aussi. » Et il faut bien saisir le ton de ce psaume. David, il n'est pas dans la névrose. Il n'a pas peur que Dieu soit partout où il veut aller, que Dieu le scrute, que Dieu l'espionne, que Dieu cherche à le punir de ses moindres faits et gestes. Mais le ton est tout autre. C'est celui qui veut se cacher, c'est celui d'un homme qui veut se cacher même dans le noir, mais qui dit, du moins les ténèbres m'envelopperont, mais alors la nuit se change en lumière autour de moi. C'est magnifique. Même si je veux me cacher dans les ténèbres, Dieu est là et il transforme ces ténèbres en lumière. Pas de chance. Même dans les ténèbres, Dieu est présent. Et qui plus est, sa présence transforme ces ténèbres en lumière. On ne peut pas se cacher de Dieu. Et c'est tant mieux car sa présence est lumineuse. Et tout ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais Jonas ne le sait pas, ne le sent pas, ne le voit pas. Il pense pouvoir se cacher de ce Dieu et de sa grâce lumineuse, qui est d'ailleurs la véritable héroïne de ce livre, de cette histoire, comme nous le verrons en avançant dans le livre pendant le mois de juillet. Mais il y a une deuxième leçon à tirer de la fuite de ce prophète disciple, de peut-être nos fuites. Et c'est la suivante, quand on fuit, il peut y avoir des conséquences. Et on le voit au verset 4 que l'Éternel répond à l'opposition non verbale, parce qu'il n'a pas encore communiqué, Jonas, d'une manière non verbale également. Dieu fit souffler un grand vent et il suscita ou il déchaîna une grande tempête et le bateau dans lequel se trouve Jonas, il a pris ce bateau pour partir à Tarsis, et le bateau menaçait de se briser. Et Jonas va tout de suite comprendre que ce message non verbal de Dieu, cette tempête, puisqu'il dit au verset 12, « Je sais bien, parce qu'il s'adresse aux marins, que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. » Et il fait bien de dire « à cause de moi, contre vous. Parce que le problème est que dans le bateau, il n'y a pas seulement Jonas, l'homme en fuite, mais il y a des marins qui y sont pour rien dans cette histoire, ou pour pas grand-chose. On pourrait simplement les accuser de recel, de prophète en fuite, mais c'est pas grand-chose comme... Et ils subissent la tempête autant que Jonas. On pourrait trouver cela d'ailleurs un petit peu injuste. Mais quand on fuit, il peut y avoir des conséquences. Leur vie est également en danger et c'est Jonas qui est la cause de leurs problèmes. Ils sont tous dans le même bateau. Nous sommes tous dans le même bateau. La fuite d'une personne ou les mauvais choix de cette personne ne touchent pas seulement la vie de cette personne, mais aussi la vie des autres. Les autres peuvent aussi être concernés par mes décisions, peuvent parfois même être bouleversés comme ces marins qui subissent une tempête et il est dit dans le texte qu'ils n'avaient jamais vécu auparavant. Une tempête extraordinaire, 7-8 sur l'échelle de Beaufort, avec des lames de 7-8 mètres de haut. Et ce qui est totalement effarant dans cette histoire, c'est de voir l'indifférence de Jonas par rapport à ces marins. Des marins qui sont pris de panique d'ailleurs et qui cherchent une solution à leurs problèmes et ils explorent en quelque sorte toutes les possibilités de salut qui s'offrent à eux. D'abord, ils passent la cargaison par-dessus bord pour alléger le bateau et puis le capitaine du bateau se décide d'aller voir ce marin d'eau douce, cet ectoplasme, comme disait le capitaine Haddock, qui dort au fond du navire, dans la cale. Ça fait penser à Jésus qui dormait lui aussi dans la barque, mais la situation est bien différente. Jésus dort, mais il est disponible. Jonas dort et il ne l'est pas. Il est toujours dans sa fuite, dans son entêtement, dans son bras de fer avec Dieu. Oh, cette tempête, même pas peur. Ça me fait ni chaud ni froid. On a même l'impression que Jonas est tellement entêté dans sa fuite devant Dieu qu'il n'a même plus envie vraiment de vivre. Mais les marins sont dans un tout autre état d'esprit. Ils ont, eux, envie de vivre et ils engagent un dialogue avec cet homme qui les trouble, un dialogue de marins polythéistes, c'est-à-dire qui croient en plusieurs dieux, et ils lui disent « Et toi, prie ton Dieu, non, c'est bon, et fais quelque chose pour qu'on ne périsse pas tous. Prie ton Dieu avec un petit dé. » Mais Jonas ne daigne pas répondre, il reste dans son mutisme. Et puis les marins tirent au sort, ils sont polythéistes, ils sont païens, pour savoir d'où vient cette tempête, et le sort tombe sur Jonas. Et donc les marins reviennent à la charge, « Mais qui es-tu ?» Et là, Jonas va daigner leur répondre, et c'est là où il prend la parole, je l'ai dit tout à l'heure, au verset 9 seulement. Il dit « Je suis hébreu et je révère l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Et dans cette réponse, il y a à la fois beaucoup et très peu. Il y a beaucoup parce qu'il témoigne quand même, en quelque sorte, à ces gens sans Dieu, qu'il craint l'Éternel, le Yahvé, qui n'est pas un Dieu local, mais qui a créé le ciel et la terre, cette mer sur laquelle ils sont, en désespoir, en danger. Et cette tempête n'est pas étrangère à Dieu, c'est ce qu'il leur dit. Il témoigne du Dieu vivant et vrai, et il renvoie à un Dieu souverain. Jonas témoigne. Mais en même temps, il y a peu parce qu'il ne propose aucune solution. Il semble contradictoire dans son comportement. Il dit craindre l'Éternel, c'est-à-dire manifester un grand respect, le révérer, et en même temps, il s'oppose à lui. Il est en train de le fuir. Un homme de contradiction, Jonas, un homme ambigu, mais que celui qui n'a jamais vécu d'ambiguïté dans sa vie lui jette la première pierre. Quand les marins apprennent qu'il fuit l'Éternel, ils sont pris d'une grande crainte et quand Jonas leur propose de le jeter par-dessus bord, aussi comme une sorte de défi devant Dieu, les marins vont refuser dans un premier temps et ils vont ramer d'abord de toutes leurs forces pour essayer de rejoindre la côte. Les marins sont des êtres sensibles. Ils n'ont pas envie de jeter Jonas par-dessus bord. Ils sont magnifiques, ces marins. Et on va percevoir chez eux une sorte de conversion, de changement qui se manifeste au verset 16, tout à la fin du chapitre 1, une fois qu'ils auront jeté quand même Jonas par-dessus bord et que la tempête se soit calmée, nous lisons « Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. » Et ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent avec lui par des vœux. Cette tempête, cette rencontre avec ce prophète en fuite a fait du changement en eux. Dieu est puissant pour entremêler des histoires et en sortir de la gloire pour lui dans des vies changées. Et c'est pour ça que dans le titre de cette petite section, j'ai pas mis « Quand on fuit, il peut y avoir des conséquences ». J'ai pas mis d'adjectif à conséquence. J'aurais pu mettre des adjectifs négatifs. Il peut y avoir des conséquences négatives. Et effectivement, la tempête, c'était quelque chose de négatif. Mais à la fin, les conséquences sont positives. Il y a une conversion de ces marins auquel Dieu tient dans son amour qui n'a pas de limite. Dieu transforme les choses. Il y a un article dans celui de juillet 2022, Vivre et croire, croire et vivre, le journal Baptiste. Et il y a un article, moi je ne l'ai pas lu, j'ai juste lu le comment on appelle ça ? La page de guerre, là, enfin avec le nom des articles. Et il y a un article, moi je ne suis pas abonné, mais si vous êtes abonné, j'aimerais le lire. Et le titre c'est « Dieu peut transformer nos mauvais choix en bénédiction ». Et Dieu peut transformer les mauvais choix de Jonas en bénédiction pour les marins. Et j'aimerais beaucoup le lire, mais je trouve ça tellement important pour nous. Dieu peut transformer nos mauvais choix en bénédiction. Et pour moi, c'est un réconfort. C'est ce que Dieu a fait aussi pour Joseph, l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse, Joseph et ses frères, plutôt dans l'histoire biblique, et c'est ce qu'il a fait pour Jonas et les marins. Toujours est-il que Jonas n'est pas sorti d'affaire et qu'il joue un rôle quand même assez obscur dans cette histoire en proposant rien d'autre qu'une sorte de solution expéditive à ces marins qui ne comptent pas pour lui. « Jetez-moi à la mer ». Il les oblige en quelque sorte à décider à sa place. C'est aux marins de décider de ce qu'ils vont faire de Jonas. Lui, dans sa fuite, ne décide de rien, juste de fuir. Ouais, on ne peut pas s'empêcher de penser que Jonas, quand même, joue un jeu extrêmement dangereux pour lui et pour les autres. Et il me semble que le narrateur de l'histoire de Jonas le fait ressortir dans ce premier chapitre. Et que les véritables héros, ce sont les marins. Ils crèvent l'écran, ils bougent, ils communiquent, ils essayent, ils cherchent des solutions, ils explorent toutes les pistes et ils trouvent un nouveau maître à bord, Dieu lui-même. Jonas, lui, est passé par-dessus bord. Il est jeté à la flotte. Il a été exclu de la communauté dont il ne voulait de toute façon pas faire partie. Jonas est à l'eau et nous allons le laisser mariner quelques semaines, tout en sachant que Dieu n'en a pas fini avec lui. Nous parlerons dans 2 semaines, le 24, si je ne m'abuse, de Jonas et le GP. Jonas, c'est pas le Grand Prix, c'est autre chose, mais on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Le Seigneur nous adresse une parole dans sa parole. Cette parole de Dieu qui peut ne pas nous plaire. Cette vie de disciple qui présente parfois des difficultés. Cette vie qui, à la suite de Christ, qui peut aller à l'encontre de nos projets personnels. Elle peut nous donner l'envie d'aller dans une autre direction. Dieu nous laisse libres de le faire, de prendre cette autre direction, d'aller en Andalousie plutôt qu'à Ninive. Mais si nous pouvons fuir, nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu et de son plan d'amour pour nous. Le Dieu de grâce, notre Dieu de grâce, est souverain. Il connaît notre histoire et celle des gens dans le même bateau que nous. Et il va faire démonstration puissante de sa grâce dans nos vies, comme il l'a fait dans la vie des marins et de Jonas et de ce disciple qui ne voulait pas y aller. Quant à nous, ce matin, ici réunis, nous savons que Dieu fait contribuer toutes choses à ceux qu'il aime et à ceux qui sont appelés à son bienveillant dessein. Amen.